Chers téléspectateurs, l'homme qui vous parle, pendant qu'il en a encore le droit, était jusqu'à lundi soir un seigneur, un féodal, un potentat, bref, un homme marié. Depuis mardi matin, notre règne est fini.
Langue de France.
Une émission féministe sur Fréquence Paris Pluriel,
106.3 FM.
En fait, ce qui nous a réunis, c'est ce désir commun de faire avec d'autres, en fait. Trouver d'autres femmes qui ont ce même désir.
Langue de fronde.
Langue de fronde.
Une émission féministe sur 106.3 FM, Fréquence Paris Pluriel.
Tous les deuxièmes lundis du mois de 18h à 19h et en rediffusion tous les troisièmes jeudis du mois de 7h à 8h.
Vous savez, François, j'aurais une petite confidence à leur faire.
On est bien sur l'onde de fronde.
Salut, vous êtes sur FPP 106.3 et vous écoutez l'onde de fronde. Aujourd'hui, c'est la troisième émission sur l'enfermement, un cycle commencé il y a quelques années sur l'onde de fronde. On s'intéresse ici au CRA, Centre de Rétention Administrative, ces prisons pour étrangères et étrangers, à la fois point névralgique de la politique migratoire française et angle mort quasi total pour les habitants et habitantes de ce pays. On écoute ce que la rétention dans ces centres fait aux personnes qui n'ont pas les bons papiers, aux femmes en exil, jusque dans leur corps. C'est d'abord Mags, une ancienne juriste de l'ASFAM, association d'aide juridique aux retenus, présente au CRA de Vincennes, qui nous en parle. Et c'est aussi les témoignages récoltés par l'Envolée et Abba les CRA, un grand merci à LE, qui nous raconte l'enfermement, les violences policières, les humiliations, les refus de soins, tout ce qu'il se passe sous les radars de notre démocratie respectable. Les CRA de France, ces centres où les gens meurent, dans l'indifférence générale. Comme A, 27 ans, mort au CRA du Ménil-Amelot, le 18 octobre 2024, victime de l'enfermement et de la maltraitance médicale. Alors à bas les CRA, force à tous, et bonne écoute.
Moi c'est Mags, du coup j'ai 29 ans. Et j'ai travaillé un an dans un centre de rétention administrative en Île-de-France, à Paris-Vincennes, qui est un des plus grands CRA de France. Je veux dire CRA pour centre de rétention administrative. Donc j'ai été juriste pendant un an pour une association qui s'appelle l'ASFAM, qui intervient au sein du centre de rétention. C'est une association qui ne dépend pas du tout de l'État, mais qui a une habilitation pour intervenir au sein du centre de rétention. Du coup, un CRA, déjà, à quoi ça ressemble physiquement? Ça ressemble à une prison. C'est un bâtiment avec à l'extérieur des grands murs, des grillages, des barbelés, des vidéos de surveillance. Les personnes qui sont placées au centre de rétention, qu'on appelle les personnes retenues et pas les personnes détenues, c'est des personnes étrangères sans papier. C'est purement pour des raisons administratives. L'idée du centre de rétention, à la base, c'est vraiment de placer des personnes là-bas en attendant de les renvoyer dans le pays, dans leur pays d'origine ou dans le pays où va être traitée leur demande d'asile ou quoi que ce soit. C'est pas des personnes qui ont commis des délits. Elles peuvent avoir commis des délits, mais c'est pas pour ça qu'elles sont au centre de rétention. C'est simplement parce qu'on n'a pas le droit de séjour en France. Donc les CRA, c'est dirigé par le ministère de l'Intérieur et pas par le ministère de la Justice comme les prisons. L'instance de surveillance sur place, c'est pas des surveillants, c'est des policiers. Le centre de rétention, c'est un peu différent d'une prison, dans le sens où c'est pas des cellules, c'est des chambres. Je dis ça en souriant un petit peu parce que, en termes de ressenti, c'est une tôle. Et vraiment, c'est frappant à quel point toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui avaient déjà eu un passage par la prison m'ont dit que pour eux, c'était pire le centre de rétention que la prison. La prison, il y a quand même l'idée, à la base, qui n'est pas vraiment implémentée, mais il y a quand même l'idée de réintégration. Et du coup, il y a des activités qui sont mises en place. En prison, c'est possible de travailler, en fait. Il y a des activités qui sont mises en place au centre de rétention. Le but de la préfecture et du ministère de l'Intérieur, c'est d'éloigner les personnes le plus vite possible et de surtout pas dépenser des sous dans quoi que ce soit pour les personnes qui sont au centre de rétention. Donc les seules choses que les personnes retenues ont pour se divertir, c'est pour chaque bâtiment, il y a une table de ping-pong, Il y a une télé dans l'espace de vie commune pour une soixantaine de personnes par bâtiment, un peu moins, et quelques machines dans la cour extérieure de musculation qui sont cassées. Et c'est même pas les personnes retenues qui peuvent décider qu'est-ce qu'elles veulent voir à la télé. C'est la GEPSA, c'est du coup l'instance qui s'occupe du linge, des repas et tout ça, qui a la télécommande et qui peut choisir ce que regardent les personnes retenues. Mais il n'y a aucune activité qui est organisée, il n'y a même pas de bibliothèque, contrairement aux prisons. La cour extérieure, c'est dans des immenses cages, il n'y a aucun endroit abrité, donc s'il pleut, les personnes ne vont pas dehors. Et par canicule, l'été, il n'y a pas d'endroit d'ombre, donc les personnes ne vont pas aller dehors non plus. La rétention, c'est vraiment présenté dans les médias comme quelque chose de plus flexible que la prison, où on a le droit à un téléphone. Mais déjà, les téléphones, c'est des téléphones sans caméra et souvent sans accès Internet. Donc, une journée en rétention, il n'y a rien à faire. Les personnes tournent en rond. Il y a vraiment très peu d'activités sur place et c'est une des choses dont on entendait le plus parler par les personnes retenues.
Dans cette émission, nous relayons des témoignages recueillis par des collectifs anti-CRA, trouvés notamment sur le site d'Abalécra, mais aussi sur celui de l'émission radio L'Envolée, qui donne la parole aux prisonnières et prisonniers, qu'elles soient détenues en prison, retenues en CRA ou maintenues en zone d'attente. Parce que, comme Max nous le disait, les CRA ont beaucoup en commun avec les prisons, on a choisi ici pour commencer l'émission de mettre en écho un témoignage de retenue en CRA et celui d'une détenue aux prisons des Baumettes. Dans la suite de l'émission, par ailleurs, on a choisi de se concentrer sur des récits de retenue en centre de rétention administrative uniquement.
Ça fait 22 jours que je n'ai pas vu la lumière du jour. Témoignage d'une prisonnière du bâtiment famille du CRA de Nîmes, publié sur le site Marseille Anti-CRA le 20 avril 2022.
Je suis une prisonnière du centre de rétention de Nîmes. Je suis là depuis 22 jours. Le CRA, c'est pire que la prison. Ils nous traitent comme des chiennes. Ça fait 22 jours que j'ai pas vu la lumière du jour et du soleil parce qu'on peut pas aller dans la promenade. Chaque fois qu'on demande pour aller à la promenade, on nous dit qu'on doit demander au chef et après ils demandent pas. Ils nous disent qu'on peut pas, qu'il y a des travaux. Mais nous, on voit que les hommes, eux, ils peuvent faire la promenade. La dernière fois, on a fait du bordel pour aller en promenade, ils ont dit « Attendez, on va voir avec le chef ». Et puis ils sont jamais revenus. Forum réfugiés ne fait rien, ça fait une semaine que je demande d'appeler mon avocat mais ils le font pas. Chaque fois, ils disent « on va revenir vers vous » et pareil, ils reviennent jamais. Ici, c'est pire que la prison. En prison, au moins, on a la possibilité de faire des promenades, des activités. Ici, il n'y a rien. Moi, je voudrais juste, au moins une fois, faire une promenade et voir la lumière. On se sent très isolé ici. Il n'y a personne qui vient nous voir, on n'a rien à faire toute la journée. Ils m'ont proposé de faire le test Covid. Moi, j'ai refusé parce que j'ai une demande d'asile que j'ai enregistrée et je veux attendre la réponse. Mais ils s'en foutent. Ils m'ont dit que je dois partir parce qu'ils n'ont pas mon passeport. Et que j'ai pas vu le consul. Moi, j'ai fait une demande d'asile parce que je peux rien faire en Algérie. J'ai quitté ma famille, j'ai fui mon père parce qu'il voulait m'obliger à me marier. Ça fait 4 ans que je parle pas avec mon père. Si je vais dans mon pays d'origine, je vais faire quoi? Je vais rester dans la rue? Je vais me faire tuer. Ici, on est 4. On est des Roumaines, Tunisiennes, Algériennes et Marocaines. Il y a des Roumaines et Marocaines qui ont été expulsées. Ce qu'il y a à manger, c'est vraiment dégueulasse. Moi, en plus, en ce moment, je fais le ramadan. Si on demande aux flics d'aller acheter des choses, ils disent oui, oui. Et puis, ils arrivent avec 2 ou 3 heures de retard, alors que nous, on jeûne et on attend de manger depuis des heures. La dernière fois, ils nous ont donné de la viande qui n'était pas halal, du coup, j'ai rien mangé, alors que ça faisait toute la journée que j'avais jeûné.
Force à toutes les prisonnières du CRA de Nîmes. Solidarité avec les prisonnières en grève de la faim au CRA de Ménilamlot et avec toutes les prisonnières en lutte. Liberté pour tous.
Des nouvelles de la maison d'arrêt pour femmes des Baumettes. Publié sur le site de L'Envolée le 17 novembre 2020. Durant toute la nuit du mardi 3 au mercredi 4 novembre, à partir de 23h, les ERIS, équipe régionale d'intervention et de sécurité de Marseille, sont intervenus pour une fouille sectorielle surprise au sein de la MAF, maison d'arrêt pour femmes, des Baumettes.
Les membres cagoulés et lourdement armés de ce GIGN de la pénitentiaire ont fait subir à des prisonnières un traitement dégradant en leur demandant de se dénuder entièrement sous leurs yeux. Tout en les exposant à leur regard, les autorités ont férocement procédé à la fouille en saccageant plusieurs cellules, perçant les sachets de nourriture, répandant au sol les vêtements, insultant les prisonnières. Le prétexte avancé par l'administration pénitentiaire pour cette intervention violente et humiliante serait la lutte contre le terrorisme en prison. De fait, ces violences servent avant tout à intimider les prisonnières que l'administration pénitentiaire juge trop radicalisées. À cela s'ajoutent les nouvelles conditions imposées par l'administration pénitentiaire depuis plusieurs mois. Impossibilité de cantiner du tabac, distribution de masques aux prisonnières seulement à partir de mi-octobre, UVF, unité de visite familiale et activités supprimées, strict protocole sanitaire, parloir hygiaphone, vitre en plexiglas, etc. Mais réduction des temps de parloir. Plein de salles de parloir sont pourtant vides. Des prisonnières ont organisé collectivement des refus de remontée de promenade ces derniers jours, protestant contre des coupures d'eau arbitraires, et ont été, pour cette raison, transférées au quartier d'isolement. Comme ces événements le prouvent, la répression liée aux états d'urgence dehors est amplifiée à l'intérieur. Force et soutien aux prisonnières de la maison d'arrêt pour femmes.
Pour moi, c'est un endroit où les droits humains ne sont pas respectés, mais même les besoins les plus primaires ne sont pas respectés. C'est vraiment un endroit d'insalubrité et indignité profond. Un des éléments qui remonte énormément de la part des personnes retenues, c'est la nourriture. Je pense notamment à des personnes qui ont des restrictions religieuses. Enfin, en gros, il y a des gens qui mangent des carottes et des pommes de terre 4 jours par semaine, qui n'ont pas accès à des viandes halal ou cachère, ou des choses comme ça. Je pense aussi aux personnes végétariennes. Il y a un monsieur qui était rastafari, qui devait manger vegan, qui a mangé du pain pendant toute sa rétention. Enfin, c'est un vrai sujet. C'est assez frappant de voir, du coup, il y a une photo qui est prise de la personne arrivant au centre de rétention pour la mettre sur la carte du centre de rétention. De voir la perte de poids entre le début de la rétention et la fin de la rétention en 3 mois, c'est assez scandaleux. Typiquement, l'accès au droit à la santé n'est pas respecté. Donc il y a 2 médecins au centre de rétention qui tournent, qui alternent pour 240 personnes. Et il y a 5 infirmières et infirmiers qui tournent aussi. Il n'y a aucun spécialiste de santé, il n'y a pas de kiné, tout ça. J'ai des cas, mais on dirait que je mens tellement c'est ahurissant ce que je vais dire, mais de personnes amputées d'une jambe, qui n'avaient le droit qu'à une béquille, parce que les médecins infirmiers considéraient qu'on pouvait donner qu'une béquille à la personne, parce que s'il y avait une deuxième personne placée qui avait aussi besoin d'une béquille, ben, il n'y aurait plus de béquille. Donc c'est vraiment des conditions lunaires. Y a un gros problème pour toutes les personnes qui ont des troubles psychiatriques, parce qu'il n'y a pas de psychiatre au sein du centre de rétention. Il y a une psychologue à temps partiel, alors que tout le monde aurait besoin d'un soutien psychologique au sein du centre de rétention. La plupart des personnes sans papier en France, c'est des personnes qui ont fait un parcours d'exil compliqué, qui a été marqué par des événements potentiellement traumatiques. C'est une généralité de dire ça, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont eu des titres de séjour pendant longtemps et qui ont perdu leur titre de séjour, évidemment. Mais voilà, il y a quand même des personnes qui ont eu un parcours d'exil extrêmement traumatique, notamment avec des passages par la Libye, du travail forcé, enfin devoir quitter sa famille, l'accueil en France, et beaucoup de personnes qui ont dû vivre à la rue pendant plusieurs années. Donc c'est des personnes qui ont un terreau vraiment de fragilité psychiatrique. Aussi beaucoup de personnes qui ont des addictions à des médicaments ou des drogues, ou arriver au centre de rétention, c'est mettre fin à tout accompagnement médical. Après, bien sûr, il y a potentiellement des prises en charge médicales qui sont faites, mais en arrivant, il y a une rupture de fait. Surtout qu'en étant, par exemple, contrôlé sur son lieu de travail ou juste un démantèlement de camp, c'est pas des personnes qui ont tout le temps leurs documents sur eux-mêmes quand ils sont placés au centre de rétention, avec les ordonnances médicales et tout ça. Donc il y a des personnes qui, d'habitude, prennent un traitement quotidien qui est nécessaire. Par exemple, je pense à des personnes diabétiques, épileptiques, tout ça, qui vont pas avoir accès à leur traitement pendant plusieurs jours, parce que par manque de preuves de pas pouvoir le montrer, ou qui vont pas pouvoir voir un médecin avant plusieurs jours. Et un autre élément de santé qui paraît vraiment anodin, mais qui l'est pas du tout, c'est les problèmes dentaires. Énormément de personnes qui arrivent au centre de rétention ont des problèmes dentaires, et vu qu'il n'y a pas de spécialiste au CRA, il n'y a rien qui est mis en place pour des soins dentaires. Et en fait, beaucoup de personnes à l'extérieur avaient accès soit à des antidouleurs, ou soit pouvait consommer des drogues, ce qui faisait que ça atténuait la douleur. Et en arrivant au centre de rétention et en ayant plus accès à leurs antidouleurs, alors même qu'ils n'étaient pas forcément accompagnés à l'extérieur pour leurs soins dentaires, à l'intérieur du CRA, ça rend fou de plus avoir d'antidouleurs. Et vraiment, les maux de dents, c'est quelque chose... Enfin, je pense que toutes les personnes qui ont eu des maux de dents savent que ça fait mal, mais... Ouais, donc ça, c'est vraiment un des points, l'accès à la santé qui n'est pas respecté. Et c'est d'autant plus important que d'habitude, comme je le disais, parce que c'est des personnes qui ont plus besoin, en général, d'avoir un accompagnement médical, parce qu'elles ont fait un parcours d'exil important, parce qu'elles ont potentiellement vécu... à la rue, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, pendant plusieurs mois, ont été privées d'un accompagnement médical en France parce qu'il y a un délai de carence, en quelque sorte, où il y a plus... Il y a... Avant les nouvelles lois, en tout cas, c'était 3 mois pendant lesquels la France ne prend pas en charge l'accompagnement médical de la personne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas où l'unité médicale du centre de rétention est alertée sur les conditions d'une personne et qu'il n'y a pas de réaction. Enfin, en fait, ça dépend un peu du bon vouloir... ce jour-là de l'infirmier ou de l'infirmière. Et il y a des cas où des personnes qui se sont évanouies, personne n'a appelé les urgences, des personnes qui ont fait des tentatives de suicide, qui ont ingéré des lames de rasoir qui sont encore dans leur estomac, il n'y a pas les urgences qui sont appelées, les personnes ne sont pas amenées à l'hôpital, et du coup les personnes retenues doivent venir nous voir, nous, on est censé être juristes à la base, pour que nous les juristes, on tape sans relâche à la porte de l'unité médicale et qu'on fasse pression pour ensuite que simplement la personne soit amenée aux urgences quand elle a ingéré des lames de rasoir. Donc voilà, ça c'est pas rare. On va souvent leur opposer qu'elles simulent ou que c'est pas sérieux ou dans d'autres cas que c'est pas la priorité ou qu'il n'y a pas assez d'escorte de la police ou des choses comme ça. Il y a toujours une réponse, mais en effet, il y a eu 2 décès l'été dernier de personnes retenues au CRA. Le premier, c'était Monsieur Hett, c'était une personne diabétique, et la veille de son décès, en tout cas la personne qui partageait la chambre avec lui, nous a dit qu'il avait essayé de voir le médecin, et que plusieurs retenues auraient demandé à ce qu'il voit le médecin du centre de rétention, et elle n'a pas eu accès au médecin ni aux infirmiers. Il est resté dans sa chambre. Et aussi, il y a plusieurs personnes retenues qui ont dit que cette même personne aurait subi des violences policières l'avant-veille et la veille de son décès. Et notamment qu'il aurait perdu des dents et tout ça. Il y a une enquête de police et un médecin légiste qui a considéré que c'était potentiellement une mort toxique. Mais voilà. Et le deuxième homme qui est décédé au centre de rétention, il n'est pas directement décédé au centre de rétention. C'est un homme, pour le coup, que nous, on connaissait bien, les juristes de l'association, qui a été hospitalisé initialement aux urgences psychiatriques après avoir fait une tentative de suicide. Et finalement, il est décédé à l'hôpital d'une maladie qu'il avait et dont on avait connaissance, dont les juridictions avaient connaissance, dont la préfecture avait connaissance, parce qu'on avait alerté toutes ces instances... de la situation de cet homme. Il n'y a pas vraiment de prévention au suicide qui est mise en place dans les centres de rétention. Donc c'est vraiment quelque chose d'hebdomadaire, enfin de très très présent au centre de rétention et j'exagère pas en disant ça. Vraiment pas.
Oui, allô ? Vous nous entendez ?
Ouais, on t'entend bien.
Extrait de l'émission L'Envolée du 21 octobre 2022, appel de plusieurs prisonnières enfermées au CRA du Ménil-Amelot.
Peut-être qu'on peut parler ensemble de comment ça se passe en ce moment dans le centre de rétention, surtout qu'apparemment il n'y a pas beaucoup de flics. Du coup, ça a des impacts sur votre vie quotidienne là-bas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Bien sûr. En fait, en ce moment, il y a beaucoup de manque d'effectifs. Mmh. Et c'est-à-dire, du coup, ça a des impacts sur tout ce qui est hygiène, rasoir, papier toilette, mouchoir et tout ça. Donc du coup, il y a des jours où on nous distribue pas. On a aussi des problèmes au niveau aussi distributeur monétaire. Ça fait 2 mois et demi, on peut pas faire de la monnaie pour s'acheter, c'est-à-dire une boisson chaude ou quoi que ce soit. Ça a été réparé qu'il y a 2 jours.
Ok.
Un nouveau réfectoire, c'est à la cantine. La nourriture, on l'a pendant 2-3 jours. C'est catastrophique. Il y a des personnes qui sont constipées, qui ont des maux de ventre, fièvre et tout ça. Après ici, par rapport aux soins gynéco et tout ça, bon, il n'y a pas de soins gynéco à l'intérieur du centre.
Et au niveau des serviettes hygiéniques et tout ça, on vous fournit le nécessaire?
Oui, on nous fournit, mais après, bon, bah, ça dépend des personnes.
Okay.
Moi, je sais qu'il y avait une Roumaine ici qui ne savait pas bien parler français. Donc, du coup, elle avait ses règles. Et puis, du coup, on lui a dit, non, on n'en a pas. Et puis, j'ai dû intervenir. J'ai dû intervenir et aller lui demander à la policière civile en lui disant que c'est pas normal. Donc, du coup, elle fait comment? Et puis, après, elle a fini par lui en donner.
C'est quand même incroyable qu'on lui dise non, quand même. C'est incroyable.
Oui.
Incroyable.
Ah, oui, j'étais très étonnée. j'étais très, très étonnée aussi. C'est parce que aussi, il y en a qui ne parlent pas bien français aussi ici. Donc, ils ne connaissent pas aussi un petit peu les droits, les lois et tout ça. Donc,
ils
sont un petit peu perdus.
Et donc, comment ça se passe? Est-ce que vous voyez des médecins, vous, quand vous êtes...
C'est très, très dur, en fait. C'est très, très, très dur. Et c'est un peu de médicaments. Quand on part, par exemple, en fait, il y a question d'hygiène, c'est grave. Et on se gratte tout le corps quand on demande, en fait, il y a des médicaments, il y a des trucs, en fait, ils nous demandent à chaque fois, donc c'est pas normal, il faut montrer... C'est genre, en fait, ils ne croient pas, en fait. Donc,
tu parles des punaises de lit,
non,
c'est ça?
Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'hygiène. Il n'y a pas de soins, en fait. La dernière fois, quand je suis partie, en fait, j'avais des démangeaisons, en fait. J'avais des démangeaisons. Ils m'ont dit, j'ai des problèmes gynéco, tout ça. Ils m'ont dit, non, il n'y a pas, c'est pas normal. C'est pas normal. Ils m'ont donné des ovules. Et le gel, il faut dans 4 jours, 3 jours pour commander. Donc, j'ai attendu 4 jours quand même. Et je suis repartie pour prendre le soin. Et non, on n'a pas fourni, en fait. Donc,
Après, très peu de soins, peu de médicaments, pas de secret médical.
Voilà, y a pas.
Voilà.
C'était une mycose que tu avais?
Oui, c'est de la mycose.
Il
y en a que c'était infection urinaire.
Il faut savoir que c'est très grave ce qu'ils font, surtout encore plus quand tu es docteur et tout, parce que tu peux engendrer des gros problèmes de santé derrière. Et en fait, tout ça, ils le savent.
Même pour le test, en fait, quand on a fait la dernière fois le test pour le Covid, tout ça, ils ne montrent jamais est-ce qu'on a vraiment le Covid ou on n'a pas le Covid. Donc, ils nous disent verbalement, oui, vous n'avez pas le Covid. Et autant qu'on avait tous les signes, en fait, qu'on avait le Covid, mais ils ne montrent vraiment qu'on n'a pas de Covid.
Alors que normalement, vous avez le droit de voir ce papier-là.
Même un papier, en fait, négatif ou positif.
Exactement. On n'est pas obligé de les croire sur parole, ces gens-là.
Voilà. Alors, tout en sachant qu'ici, il y a la Covid, et en plus, on a la variole du singe. Donc voilà, je voulais préciser un petit peu ça aussi.
D'ailleurs Jamila, toi, tu as eu le Covid il n'y a pas longtemps, si je me rappelle bien.
C'est Siem qui a eu le Covid.
C'est Siem, pardon, excuse-moi. Ok. Est-ce qu'elle a envie d'en parler? Comment ça s'était passé à l'époque?
Elle a été isolée, comment ça se passe?
Bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur. Il y a une fois qu'elle m'a appelé les infirmières, elle m'a dit « Toi, c'est très important parce que ta santé, elle n'était pas bien. Moi, je suis malade asthmatique, j'ai le stress, j'ai l'attention. Mm-hmm. » Et elle m'a appelé parce que moi, j'étais pas vaccinée pour le Covid, j'étais jamais vaccinée. Elle m'a appelé pour le test. Et moi, j'ai fait le test. Et elle m'a dit, madame, tu es positif. Alors, tu partiras à l'isolement, maximum, c'est 10 jours. Et je rentre à l'isolement. Elle m'a donné même pas les médicaments. Elle m'a donné juste le Doliprane. Elle m'a pas donné des médicaments, des fièvres. Je dormais même pas. Du coup, il n'y a pas à manger. Elle m'a donné même pas à manger. Alors, j'étais isolement. J'étais comme comme le chef.
Et t'étais dans le bâtiment des hommes, c'est ça? On t'a bougé, en fait, du bâtiment des femmes pour te mettre toute seule dans une chambre dans le bâtiment des hommes.
Elle m'a changé de bâtiment. Elle m'a rentré dans un bâtiment isolement, des bâtiments des hommes. Elle n'est pas nettoyée et tout. C'est très, très, très sain.
Et Siem, tout à l'heure, tu nous as dit au téléphone que t'avais peut-être envie de parler de ce qui s'était passé quand t'es arrivée au centre de rétention avec...
Oui, pour mon fils que j'ai perdu un enfant ici, et elle m'a dit, moi je rentre ici enceinte pendant un mois et 20 jours, et je comme rentre ici le 3e jour, j'ai saignement. Alors je demande l'infirmière, elle m'a ramené dans l'hôpital, et l'hôpital elle fait des analyses, et elle m'a donné les papiers. Et ici, je demande des papiers, est-ce que j'étais enceinte ou pas? Pourquoi j'ai saigné? Elle m'a dit, non, madame, tu n'es pas enceinte. Et moi, je reste saignement 13 jours. Comment ça? Je n'ai pas enceinte et je reste ici 13 jours. Alors, je suis contente que j'ai perdu l'enfant. Et elle m'a dit, non, madame, tu n'as pas perdu l'enfant. Quand je demandais les feuilles pour poser à la CIMED, elle m'a dit, non, madame, tu n'as pas le droit pour prendre, comment on s'appelle ça, pour prendre le dossier médical.
Mais normalement, quand il y a une fausse couche, normalement, tu as des soins derrière à effectuer, il me semble.
Aucun
bien.
Aucun soin, madame.
Ouais,
moi,
sais.
J'ai déjà perdu un enfant. J'étais soignée dans un hôpital intercommunal Créteil.
Ouais.
Et pour le moment, ici, il n'y a pas de soins, il n'y a rien. Moi, pour le moment, il y a des infections dans les toilettes, pardon. Et on demande le médicament, comment ça pourrait aller tout. Et elle ne m'a pas ramené les médicaments, elle ne m'a pas ramené des gels, elle ne m'a pas ramené pour nettoyer.
Bah, c'est vrai qu'on est, en contact avec des retenues femmes depuis un certain temps. Et en fait, il n'y a vraiment aucun suivi gynécologique. Mais c'est tellement grave que... à tel point qu'on a été en contact avec une femme cet été qui a perdu son enfant quand elle a été expulsée. Et en fait, elle nous a raconté que les médecins au CRA lui donnaient des antidouleurs parce qu'elle avait une rage de dents, des antidouleurs qui étaient complètement incompatibles avec la grossesse et qui ont totalement mené, en plus de l'expulsion forcée, enfin, ça a mené à une situation de...
Alors moi, quand je suis une ancienne prisonnière, j'ai été incarcérée à Fleury-Mérogis. C'est à l'époque, quand les femmes arrivaient enceintes à Fleury, surtout les femmes des pays de l'Est, la plupart du temps, ils leur faisaient des lavages de cerveau pour qu'elles avortent. Parce que, en fait, le fait que vous accouchiez sur le territoire français, ça peut potentiellement faire d'elles avoir la nationalité française, et ça les dérange. C'est pour ça qu'en vrai, ils favorisent ces choses-là. Et tout ça, c'est volontaire. On peut plus nier l'évidence arrivée à un moment. Il faut assumer, il faut que ces gens, ils assument leur acte, en fait. Et je pense que tout ça, c'est volontaire.
Et ce qui s'est passé pour cette personne-là, c'est qu'elle a perdu son bébé et elle a ensuite été renvoyée dans son pays. Et ils se sont rendus compte, arrivés dans son pays, que ça faisait plus de 10 jours que le fœtus était mort et qu'il ne l'avait pas opéré pour qu'il puisse sortir.
Enfin. Bah, du coup, Siam, on est désolé pour ce qui est arrivé. Ça a duré super dur.
Grave.
Ici, il y a des femmes enceintes, en fait, dont il y en a qui font des...
Elle n'est pas mangée bien, elle n'est pas...
Qui ne mange pas bien, elle est très affaiblie, parfois elle ne vient même pas manger au réfectoire.
Et en plus, ici, dans le réfectoire, il n'y a pas de viande halal, parce qu'il y a beaucoup des Arabes ici dans le centre. Il n'y a pas de viande halal et tout... il y a juste, comment ça s'appelle
Il y en a qui sont en manque de fer, manque de globules rouges,
ils sont
de l'anémie. Donc voilà, c'est un peu c'est compliqué aussi, ouais, qu'il n'y a pas de viande.
Après, c'est fait pour.
Mais après, voilà. Ça encore, je veux dire, voilà.
Après, c'est fait pour qu'on va avoir marre, pour que... C'est normal, ça s'est connu, en fait.
Ah oui, c'est fait pour
donc
pousser
après,
à bout.
Donc après, voilà, ici, il y a des femmes enceintes et qui sont malades et que, bah, malheureusement, elles ne sont pas prises en charge.
Volontairement.
C'est pas suivi. Comment ?
Je dis, c'est volontaire qu'elle ne soit pas prise en charge.
Oh oui, non.
Extrait de l'article « Le juge, le flic et le médecin, une destruction concertée de la santé des personnes enfermées en CRA » paru dans le journal de l'Envolée de novembre 2022, le numéro 56. Ce texte a été écrit par l'Assemblée contre les centres de rétention d'Île-de-France qui lutte depuis 2019 avec les personnes enfermées dans les prisons pour sans-papiers. La santé en CRA est souvent un enjeu de lutte, comme dans des grèves de la faim collective pour obtenir des soins. Face au risque d'expulsion, des prisonniers ou prisonnières en arrivent à des pratiques telles que l'automutilation. Il n'est pas question pour nous de réclamer de meilleures conditions d'enfermement. La privation de liberté n'est pas et ne sera jamais compatible avec une bonne santé. La dégradation de l'état de santé physique et mentale en CRA est un outil de l'État pour réprimer les personnes étrangères. Le texte décrit ensuite différents cas, différentes histoires qui illustrent l'absence de suivi gynécologique, par exemple, et les violences policières pour les femmes enceintes en CRA, dont on a parlé à d'autres moments de cette émission, mais aussi l'enfermement comme outil de destruction psychologique. Ils écrivent à ce sujet. Les prisonniers et prisonnières subissent une médication massive qui vise à éteindre leur colère, à anéantir les esprits et les corps. Parfois directe et violente lors de passages forcés en hôpital psychiatrique, la contrainte exercée par le personnel médical pour les droguer est le plus souvent sournoise. On incite les retenus à prendre des anxiolytiques et des sédatifs pour supporter un environnement qui ne peut que générer angoisse et insomnie. La destruction psychologique fait partie de la logique du CRA et ses effets continuent bien après la fin de l'enfermement. On entend souvent dire que les gens deviennent fous en CRA. Entre le harcèlement des flics, la bouffe dégueulasse, la saleté et la crainte permanente d'être emmené de force dans un avion, la santé mentale est mise à l'épreuve au quotidien. Dans ces conditions, médecins et flics travaillent main dans la main pour briser toute tentative de rébellion. Les uns frappent, les autres sédatent. Juges et médecins se renvoient la balle pour ne libérer personne. Le dernier maillon de cette chaîne, c'est le juge des libertés et de la détention, le JLD. Une personne enfermée au CRA peut passer 4 fois devant le JLD, qui décide le plus souvent de prolonger la rétention administrative. Souvent, les personnes enfermées signalent leurs problèmes de santé lors de ces audiences. Même lorsqu'elles amènent des certificats médicaux, les juges ont tendance à s'en foutre. À toutes les audiences auxquelles on a assisté, on n'a jamais vu de juge prononcer une incompatibilité de la rétention avec l'état de santé d'une personne enfermée. Ce serait risqué de faire une jurisprudence favorable aux prisonniers. Du côté du médecin, le médecin du CRA refuse de statuer sur la question de l'état de santé, affirmant qu'il est incompétent et il renvoie la balle au médecin de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est rattaché au ministère de l'Intérieur. Et le médecin de l'OFI, lui, affirme qu'il ne peut statuer que sur la compatibilité de l'état de santé avec l'expulsion, et pas avec la rétention. En définitive, juges et médecins se disent tour à tour incompétents pour statuer sur la compatibilité de l'état de santé avec la rétention. Les juges ne font rien, car libérer des gens poussés aux tentatives de suicide et à l'automutilation reviendrait à valider ces modes d'action. Le médecin, lui, travaille à maintenir les personnes enfermées à la limite de la survie, parce qu'un mort ou une morte en CRA, ça la fout mal publiquement. S'ils meurent 3 jours après leur libération ou leur expulsion, ce n'est plus le problème de l'État français. Il n'y a que grâce à leur mobilisation que les prisonniers et prisonnières arrachent un peu de prise en charge et de soins. Nous voulons continuer de rendre visibles les révoltes à l'intérieur et les soutenir. En relayant l'histoire des prisonnières du Ménil faisant bloc pour soutenir l'une d'entre elles qui était enceinte, en criant « Liberté » et « À bas les CRA » avec des proches dans leur salle d'audience pourrie, en parvenant d'une manière ou d'une autre à envoyer de la force aux grévistes de la faim, en continuant de se battre aux côtés des personnes qui subissent la machine à enfermer et à expulser contre ceux qui la font marcher. Bref, comme d'habitude, à bas les CRA.
Moi, quelque chose qui m'interpelle et me révolte très profondément, c'est les violences au sein du CRA. Il y a tout type de violences, mais je pense particulièrement aux violences infligées par les policiers sur les personnes retenues. Un des éléments qui est très présent pour les personnes retenues, c'est qu'il faut savoir qu'un centre de rétention, c'est géré par la police. Pour les personnes retenues, être en contact permanent avec la police, ça a des implications très fortes. Et quand je dis en contact permanent, c'est qu'ils dépendent des policiers pour tout. C'est les policiers qui encadrent les repas, c'est les policiers qui ouvrent les portes entre l'espace de vie où sont les personnes retenues et le couloir administratif où il y a l'OFI pour acheter ses cigarettes, où il y a nous les juristes, donc pour avoir des conseils juridiques, où il y a l'infirmerie. Donc c'est les policiers qui ouvrent la porte pour ça, c'est les policiers qui accompagnent les personnes retenues pour les amener aux juridictions. Donc j'ai déjà vu des personnes se voir refuser un accès à leur propre audience par des policiers qui disent qu'ils les punissent. En gros, non, toi tu n'iras pas à ton jugement. Être en contact en permanence avec les policiers, ça a aussi comme conséquence des violences policières. C'est un peu difficile pour moi d'en parler au micro pour plusieurs raisons. Je pense que j'ai peur de quelque chose de voyeuriste et d'un peu sensationnaliste en rentrant dans des faits très précis. J'ai aussi pas eu l'accord des personnes concernées. Donc c'est vrai que c'est difficile pour moi de dévoiler quelque chose de aussi intime et qui va autant dans les détails. C'est vraiment quotidien, les violences policières. C'est bien sûr des coups de poings, de pieds, des gifles, des actes qui pour moi vont jusqu'à la torture, et je pèse mes mots. Donc des souffrances aiguës qui ont pour but de dénigrer la qualité de dignité humaine de la personne. On a une personne à un moment qui nous a témoigné du fait qu'il s'était fait arracher des dents par un policier. Donc c'est très intense et... Ouais, c'est un peu bizarre de rentrer comme ça triturée dans l'intimité des gens, mais je peux pas souligner à quel point c'est un lieu de violence. Et pas que violence par son aspect physique et le conditionnement et le choc de l'enfermement, mais vraiment quand je racontais à mes amis, à mes proches, à l'extérieur ce qui se passait au quotidien au centre de rétention, je pense que les gens pensaient que je mentais, que j'affabulais, que j'inventais des choses, tellement c'est violent comme un film d'horreur. Et mes proches sont des personnes assez militantes, assez renseignées sur le domaine. Mais on parle d'une fréquence de violence et d'une intensité d'humiliation telle. Ouais. Au-delà des violences physiques, il y a beaucoup d'humiliation. Déjà des violences verbales, de tutoyer les personnes directement. Les insultes à caractère raciste qui sont très fréquentes, mais des insultes... dans notre siècle, en fait, des mots qu'on n'aurait plus le droit, qu'on n'a plus le droit d'utiliser. Enfin, mais aussi des dénigrements, des crachats, de laisser des gens dans leur urine après s'être fait battre par des policiers et de leur dire de laver avec leurs propres vêtements. Enfin, vraiment des techniques d'humiliation folles. Et ça, même face à des personnes avec des gros troubles psychiatriques, enfin des personnes où il faut pas être médecin pour se rendre compte que c'est une personne malade en face de soi. Et ça, je pense que c'est une des choses qui m'a le plus marquée, de voir à quel point les policiers étaient complètement dénudés d'empathie, mais n'arrivaient même pas à voir la personne en face d'eux comme un être humain. Ouais, une personne avec des gros troubles psychiatriques comme ça ne devrait pas être traitée de telle manière. Enfin, personne ne devrait être traitée de cette manière, mais... Ouais. Il y a beaucoup, 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 la grande majorité des événements dont on n'est pas témoin. Déjà, on n'est pas là toutes les heures de la journée, mais aussi les policiers devant nous font au moins un peu semblant de bien se comporter. Mais il y a beaucoup de personnes retenues qui nous rapportent ces faits ensuite. Et beaucoup de faits, je pense, qui ne nous sont jamais rapportés non plus. On a bien identifié des policiers comme étant violents individuellement, mais de manière plus générale, on ne peut pas parler de personnes individuellement violentes, c'est un système qui est violent. Quand toutes les plaintes qu'on a été envoyées pendant des années ont été classées sans suite, ou quand il n'y a aucun policier du centre de rétention qui a jamais été condamné pour violence, on ne peut pas parler de cas individuels. C'est pas des violences qui sont documentées, parce que au sein du centre de rétention, les personnes, elles ont que le droit à des téléphones sans caméra. Oui, il y a des caméras au sein du centre de rétention de vidéosurveillance, mais il y en a pas partout. Notamment, il y en a pas dans les chambres d'isolement, qui sont dans le couloir administratif. Et une pratique qu'on note vraiment dans tous les centres de rétention de France, c'est que ça va être un des lieux privilégiés par les policiers pour passer à tabac des personnes retenues. Ça, c'est une des explications pour lesquelles je pense qu'il y a beaucoup de violences au sein du centre de rétention, c'est qu'il n'y a pas de façon pour les documenter, il n'y a pas de preuves, quoi, il n'y a pas de caméra. C'est très très difficile pour les personnes d'obtenir des certificats médicaux attestant des violences. Normalement, ils sont censés pouvoir voir le médecin au sein du centre de rétention. Mais pour voir le médecin, il faut un rendez-vous. Du coup, il faut demander à un infirmier pour ensuite obtenir un rendez-vous par le médecin qui examine les blessures. Le problème, c'est que pour passer de l'espace de vie à l'endroit où il y a l'infirmerie, il faut demander à un policier l'après-midi, quand l'infirmerie ouvre, à passer dans l'espace administratif. Et c'est un peu les policiers qui font le tri, en fait. Donc si un policier sait que son collègue a tabassé quelqu'un, il va tout faire pour que cette personne n'aille pas à l'infirmerie. Et même si la personne arrivait à l'infirmerie, il faut encore que l'infirmier soit d'accord pour prendre rendez-vous avec le médecin. Le médecin qui est que là du lundi au vendredi. Et moi, j'ai eu plusieurs personnes pour qui j'ai porté plainte qui ont jamais réussi à obtenir ce certificat médical auprès de l'unité médicale pour constater leur violence ou pour qui ça a pris des jours. Je pense au cas d'un monsieur qui a porté plainte pour des violences. Il est venu me voir le lendemain des violences. J'ai pris son récit. Je l'ai accompagné à l'infirmerie, demandé est-ce qu'on prenne rendez-vous avec le médecin. On m'a dit oui, pas de souci. Je le revois le lendemain, il me dit qu'en fait, ça n'a pas été fait. Et en fait, à partir de ce moment-là, tous les jours, j'ai tapé à l'infirmerie pour leur parler. Et soit on m'ignorait, soit on m'assurait que ça allait être fait et ça n'a pas été fait. Et cet homme a attendu 11 jours avant d'être examiné par un médecin. Sauf qu'il n'a pas d'appareil photo, il n'a pas de manière de documenter ses dommages. Une autre difficulté, c'est que les policiers au sein du centre de rétention ne portent pas leur numéro RIO, ce qui est le cas de manière générale sur la voie publique, mais spécifiquement au sein du centre de rétention, ils portent très peu leur numéro RIO, alors que c'est une obligation légale. Et même quand ils le portent, ils vont enlever leur veste avant de frapper quelqu'un, et le numéro RIO est scratché sur la veste. D'autres éléments, pour moi, qui font qu'il y a beaucoup de violences policières, c'est que ben, y a pas de répercussions en fait pour les policiers. Pour le moment, au CRA de Paris-Vincennes, il n'y a aucun policier qui a été condamné pour des violences policières. Il y a un policier qui a été condamné pour des violences dans un CRA cette année pour avoir enfoncé les yeux d'une personne retenue, mais c'est une première. En général, je pense que les personnes retenues ont très peur de porter plainte. Ils ont peur que c'est des répercussions pour leur dossier. Ils ont peur que les policiers portent plainte contre eux, en inversant comme d'habitude, en disant outrage, rébellion ou violence contre eux. Aussi, c'est des personnes qui sont maximum 3 mois au centre de rétention. Donc, si elles sont renvoyées dans leur pays d'origine et qu'il n'y a aucune preuve, la seule preuve serait son témoignage. Et s'il n'y a pas d'audition de la victime par la police entre-temps, bah, ça va être classé sans suite, très vite, par le procureur. Et il y a beaucoup de personnes retenues qui nous ont fait part du fait qu'ils ont été intimidés par des policiers ou reviolentés. Moi, je pense au cas d'un monsieur qui est venu me voir une première fois pour porter plainte contre des faits de violence par des policiers. J'ai pris sa plainte, je l'ai envoyée. Il s'est fait refrapper par le même policier qui avait appris qu'il avait porté plainte. Et du coup, ce monsieur retenu dont je parlais, il a été frappé par ce même policier qui a essayé de l'intimider pour lui dire de retirer sa plainte. Il est venu voir une de mes collègues pour porter plainte une deuxième fois contre ces nouveaux faits. Et en fait, après ça, il a été harcelé par des policiers qui venaient le réveiller toutes les nuits et le frapper pour lui dire de retirer ses plaintes. Et au final, il me semble qu'il a retiré sa deuxième plainte. Il a maintenu la première, mais il a retiré sa deuxième plainte. Et il n'a pas porté plainte pour toutes les violences subséquentes. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas envie de mettre en danger des personnes plus que ça, mais il y a vraiment énormément de cas où il y a des personnes qui nous ont fait part de faits et qui nous ont dit ne pas vouloir porter plainte, ne pas vouloir écrire au défenseur des droits ou ne pas vouloir saisir le contrôleur général des lieux de privation de la liberté parce qu'ils avaient peur de répercussions. Je pense que aussi c'est juste tellement normalisé, les violences au sein du centre de rétention. Il y a déjà un monsieur qui a dit à une collègue, si je commençais à porter plainte pour un étranglement et une gifle, on n'est pas sorti d'affaire. Enfin, un étranglement et une gifle, c'est pas normal en fait. Enfin, bref, on nage vraiment en plein délire. Et en général, je pense qu'il y a plein de personnes qui pensent, mais avec raison, que ça va mener à rien et que c'est des procédures pour rien, que c'est super vulnérabilisant. Enfin, ouais. Donc, nous, l'année dernière, en 2022, il y a 33 plaintes qui ont été envoyées. Mais 33 plaintes, c'est rien par rapport aux violences qui ont été commises. Et en 2023, de janvier à octobre, il y a eu 44 plaintes. Donc c'est vraiment une explosion des plaintes, beaucoup plus sur un temps plus réduit. Et ça, encore une fois, c'est vraiment une sous-représentation par rapport aux violences effectives.
Même en chien, on le traite pas comme ça. Refus de soins et violences obstétricales contre une prisonnière à Ménilamlot. Témoignage publié sur le blog d'Abba les CRA le 13 août 2022. C'est le témoignage d'une retenue du CRA du Ménilamlot. Elle était enceinte de 4 mois au moment de son arrestation et a tenté tout le long de sa rétention à résister à l'expulsion et à la violence physique et psychologique que les flics lui ont infligée pour la faire plier. Elle a été expulsée vers la Roumanie début juillet et témoigne des mauvais traitements médicaux et des violences policières subies pendant sa détention et qui ont conduit à une interruption médicale de grossesse en Roumanie. C'est l'énième cas de violence médicale et de refus de soins dans un centre de rétention. Le racisme et le sexisme de la police n'ont pas de limites. Soyons solidaires avec les prisonnières, continuons à lutter contre les violences policières et médicales, continuons à lutter pour la destruction des CRA. Comment tu es arrivée au CRA ?
Il y avait un vol dans mon bâtiment et la police a tapé à toutes les portes. Personne n'a ouvert sauf moi. Je les ai laissés contrôler. Comme je n'avais pas mes papiers, ils m'ont dit de venir au Comico. Ils m'ont mise en gaffe. Ils m'ont pas laissé voir d'avocat ni de médecin. Ils m'ont d'abord dit que je ne pouvais pas rester en gaffe parce que j'étais enceinte. Ils m'ont dit « Vous allez rester dans un autre endroit ». Ils m'ont fait signer des papiers et je ne savais pas ce que c'était parce qu'ils m'ont pas dit que j'avais le droit à une aide pour les lire. Je ne savais pas qu'il y avait la CIMA de CRA. Et ensuite, je suis passée devant le juge et ils m'ont mise au CRA.
Est-ce qu'on t'a permis de voir un médecin en arrivant au CRA, étant donné ta grossesse ?
Non, j'ai pas vu de médecin en arrivant. J'avais une infection et ils m'ont pas autorisé à voir un médecin. Après, ils m'ont donné de l'amoxicilline et j'ai eu un problème au cœur à cause des médicaments et ils m'ont emmenée à l'hôpital. Le docteur a pas pris ma tension, il a dit que c'était rien. Ensuite, ils m'ont ramenée au CRA, sans rien, après que j'ai été menottée, etc. C'est pas normal ce qui se passe au CRA. Même un chien, on le traite pas comme ça.
Tu as commencé une grève de la faim avec une autre retenue début juin. Tu peux expliquer pourquoi vous avez décidé de faire grève ?
J'ai décidé de faire grève parce que la nourriture était périmée et ils mettent des cachets dans la nourriture. Même les chiens, on leur donne pas ça. Le pain était périmé de 4 ou 5 jours et j'arrivais pas à manger de toute façon.
Comment la PAF a réagi à la grève ?
Ils m'ont dit « Ferme ta gueule, sinon je mets ta gueule par terre. » Qui s'en foutait et que le préfet aussi. Tu fais la grève ou non, tout le monde s'en fout de toi.
Tu peux raconter comment ça s'est passé, la première tentative d'expulsion ?
Ils m'ont ramené de force à l'aéroport. Ils m'ont prise de force. Comme je voulais pas monter, ils ont été violents. Ils m'ont menacé de me taper.
Et la préfecture t'avait communiqué une date de vol ?
Non, on m'a pas dit, on m'a prise directe.
Comment ça s'est passé, ton expulsion vers la Roumanie, début juillet ?
Ils m'ont d'abord dit que je pouvais refuser, mais quand je suis arrivée à l'aéroport, ils m'ont fait monter par l'arrière. Et il y avait un autre monsieur. Ils m'ont scotché les pieds avec je sais pas quoi, et les mains attachées.
Quelles ont été les conséquences de ta détention sur ta santé ?
J'ai fait un avortement obligé à cause des médicaments du CRA. J'avais trop mal au ventre. Je suis allée aux urgences et ils ont fait une échographie. Il fallait avorter parce que j'étais en danger. Le médecin a dit « C'est pas possible, la France c'est des chiens ». Je vais aller à l'ambassade de Roumanie pour me plaindre. Le bébé était déjà mort depuis une semaine. Je peux pas retourner tout de suite en France parce que j'attends que l'ambassade me réponde. Du coup, mes enfants restent avec mon mari. On peut plus tuer les gens comme ça. Je vais pas les laisser comme ça. Je ne vais pas les laisser tranquilles.
Donc de toute ta détention, tu n'as pas eu de suivi gynécologique et obstétrique ?
Non, je n'ai pas eu de suivi pendant toute la détention.
Et normalement, nous attendons un appel téléphonique de détenus au centre de rétention.
Témoignage d'une prisonnière du CRA de Ménilamlo, extrait de l'émission L'Envolée du 9 octobre 2020.
Bonjour madame.
Bonjour.
Bonjour.
Dis-nous, merci de ton appel. Est-ce que tu vas bien ?
Oui, ça va un peu, malgré les stress et tout.
Tu voulais nous parler de choses précises aujourd'hui ?
Ouais. Est-ce que je vis qu'il y a là deux jours, ça a commencé, c'était avant-hier. Et ça m'a un peu bouleversée, ça m'a rendue triste. Et donc.
N'hésite pas, vas-y, on t'écoute.
En fait, ici sur le CRA de filles, parce que nous sommes aussi avec des filles qui ne parlent pas français. Il y a les Albanaises et tout, nous vivons avec elles. Alors, il y a de cela deux jours, il y a une Albanaise qui est venue me voir, comme elle ne parle pas français, elle parle anglais. Bien que moi aussi, je ne parle pas trop français, j'aime des bruits quand même. Elle est venue me dire qu'elle avait déjà ses règles et elle voulait avoir le bande génique. Elle me dit si je peux l'accompagner à la police pour aller demander des bandes géniques. Et là, je l'ai accompagnée. Arrivée là-bas, on a trouvé une dame. Je lui dis, ouais, la demoiselle, elle a ses règles, elle voulait avoir le bon génie. Et la police l'a remis juste deux bandes. Et elle a négocié, elle a dit, avec deux bandes, qu'est-ce que je vais faire avec ? Et la police a grondé. La fille, elle a eu peur, on est rentré. Après, elle a utilisé, dans la journée, elle a utilisé les deux serviettes. Ça n'a pas pu suffire dans ses besoins. Elle est venue me voir. Elle m'a demandé si j'en avais aussi. Moi non plus, j'en avais pas. Du coup, elle a pris son habit, elle a pris sa blouse, elle a déchiré, elle a utilisé ça comme serviette. Sans se rendre compte qu'il y avait de problèmes sur ça, comme avec la femme, elle est trop fragile, elle a attrapé des infections. Elle a commencé à avoir trop mal au niveau du bas-ventre et au niveau de la hanche. Elle pleurait tellement fort. Elle est venue me dire que je ne me sens pas bien, j'ai trop mal. Du coup, elle est tombée par terre, elle a commencé à crier très fort. Et comme dans notre bâtiment, il y a un bouton là, quand vous appuyez, directement ça sonne chez la police. Moi, j'ai sonné et on a essayé d'appeler la police. La police nous a répondu que nous ne sommes pas là pour vos conneries, donc démerdez-vous là-bas. C'est la réponse qu'ils nous ont donnée. Et du coup, la fille, elle a commencé à pleurer. Au départ, on croyait peut-être que non, ça va passer, c'est juste des douleurs, comme on n'avait pas aussi des antidouleurs, rien du tout. Elle pleurait, et plus le temps avançait, la fille, elle devenait pâle. Elle devenait pâle, et elle avait une forte fièvre. Je voyais aussi ses yeux commencer déjà à changer. Et tout le monde était paniqué, on ne savait plus quoi faire. Elle pleurait tellement, elle était par terre. Et elle a commencé à faire de, je sais pas comment je peux appeler, elle faisait comme ça.
Des convulsions.
Oui.
Des convulsions.
Oui. Et elle pleurait tellement fort, j'ai eu peur. Deux minutes après, il y a une amie qui était ici, c'est une Marocaine. On l'avait rapatriée il n'y a pas longtemps. Elle m'a appelée. J'étais tellement paniquée, je lui explique la situation. Elle me dit, attends d'abord, je t'envoie le numéro de pompier. C'est elle qui nous a envoyé le numéro des pompiers. On a essayé de contacter les pompiers et on leur avait dit, non, dès que vous êtes là, il faut faire signe. Mais il ne faut pas dire aux flics que non, c'est nous qui vous ont fait un signe parce que ça risque de nous créer des problèmes. Effectivement, les pompiers sont arrivés. À la porte, d'abord, on a commencé. Il y a eu un peu de discussion, apparemment. Le police ne voulait pas que les pompiers rentrent à l'intérieur pour prendre la retenue. Et à la fin du compte, quand même, le pompier, ils ont eu à les convaincre. Et jusqu'à ce que le pompier, ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont pris la fille. Ils ont vérifié d'abord l'état de sa tension était déjà en baisse. Ils ont remarqué aussi qu'elle avait une sorte de fièvre. Donc, la fille était vraiment KO. Et du coup, on est parti avec la fille. Et puis, les filles qui sont venues nous voir, ils nous disent, ouais, les filles, c'est vous qui ont appelé les pompiers, on va voir. Directement, ils se sont approchés de moi et ils ont commencé à m'adresser en me disant, toi, tu parles français que les autres. C'est-à-dire, c'est toi qui es allé appeler les pompiers. Je dis, moi, c'est pas moi qui ai appelé les pompiers, c'est la fille elle-même. C'est elle-même qui avait mal. Elle sait ce qu'elle sentait dans son corps. Moi, je ne suis pas dans son corps pour sentir ce qu'elle elle présentait. C'est elle qui a appelé les pompiers. Et directement, une policière s'est approchée de moi. Elle a voulu me gifler. J'esquivais. Je suis rentrée dans ma chambre. Vers 4 heures, ils sont venus dans ma chambre. Comme la porte est déjà cassée, toutes les portes sont déjà cassées. Donc, il n'y a même pas moyen qu'elle frappe à la porte. Elle rentre. Elle m'a réveillée à 4 heures. Et je sursautais sur les lits. Il y avait déjà l'un des... Donc, je ne comprenais absolument rien de ce qu'il voulait me faire, en fait. Le policier était dehors et la dame, elle est rentrée, elle m'a réveillée, elle me dit, demain, je dois te présenter au greffe. Je dis, pour quelle raison? Elle me dit, tu n'as aucun droit de me poser des questions. Demain, tu te présentes au greffe. Je lui demande, mais pourquoi? Elle dit, tu dois faire le test parce qu'il y a un vol prévu pour toi. Je lui dis, non, moi, je ne vais pas faire le test. Elle me dit, si tu oses des réfugiés, tu vas avoir. De toute façon, tu verras ce qu'on va te faire. Les matins, effectivement, vers 10 heures comme ça, je vois le gendre de l'hôpital m'appeler. Oh non, mademoiselle, il faut passer à l'infirmerie. Je ne suis pas partie. J'ai essayé d'appeler les garçons. Les amis qui sont dans l'autre CRA, les garçons, ils me disent non, il ne faut pas y aller, je ne suis pas allée non plus. Après quelques minutes, comme ça, je vois, on a envoyé quatre policiers sont venus. Ils me disent, madame, vous êtes appelée à l'infirmerie. Comme j'ai refusé de partir, du coup, je vois l'un de ces policiers me dit « Ok, vous serez poursuivi 3 ans de prison comme vous ne pas faire le test. » Je n'ai pas répondu à ça, j'ai laissé. Et dans la nuit, maintenant, ils sont venus encore là où j'étais et ils ont commencé maintenant à me traumatiser. Il y a l'un qui était là, m'a bousculé. Elle me dit, comme tu veux pas, on va appeler les escortes cette fois-ci, tu seras escorté. Comme ça fait 2 fois déjà qu'ils ont accusé les vols, cette fois-ci, tu seras escorté parce que tu ne vas pas faire le test. Et je dis, mais non, c'est ma santé. Si je ne vais pas faire le test, je ne vais pas. C'est ma santé à moi. De toute façon, je ne suis pas en train de présenter des symptômes du Covid. Non, et tout. Ils ont commencé à parler n'importe quoi. Ils ont commencé à parler comme ils voulaient parler. Et c'était fini. Aujourd'hui, maintenant, quand on est allé manger vers 18h, comme on mange à 18h, aujourd'hui, on a fini à 19h. Nous sommes rentrés à l'intérieur, comme ça, au réfectoire, comme on fait souvent des lignes, vous montrez des cartes et puis vous vous asseyez. Du coup, on voit la policière, elle s'élève, elle nous dit, avant de manger, vous devriez d'abord chanter. Chanter quoi encore? Il nous dit, ouais, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de leur chef et nous sommes obligés de chanter. Elle dit, est-ce que chanter pour votre chef, c'est obligatoire? Elle me dit, si tu chantes pas, tu manges pas. C'est-à-dire, on a commencé à prendre une personne par personne. Vous rentrez à l'intérieur, vous chantez 3 fois, Joyeux anniversaire, 3 fois, et puis vous partez manger. Si vous refusez, on ne vous donne pas à manger. Il y a la même fille-là qui était malade, celle qu'on avait amenée à l'hôpital. Elle ne se sentait pas bien. Elle n'a pas la force de chanter. Et les policiers l'ont exigé de chanter. La fille, elle dit, j'ai très mal, je ne sais pas chanter. Directement, on a refusé de la manger. Donc, jusqu'à présent, la fille, elle est dans la maison. Comme on a l'habitude de prendre le pain pour rentrer dans la chambre, ils ont remarqué que au cas où on prenait le pain, on va donner à la fille. Ils ont refusé de nous donner même un pain de café. Depuis le matin, la fille, elle n'a pas mangé. Vous exigez aux gens de chanter pour votre anniversaire. Vous êtes bien. Hein?
Je saute un peu du coq à l'âne, mais ça me faisait penser que tu m'avais posé la question des personnes queer au sein du centre de rétention. Et du coup, au CRA de Paris-Vincennes, c'est un CRA pour hommes. Quand je dis homme, je dis assigné homme à la naissance. Pendant ma période au sein du centre de rétention, il n'y a personne qui s'est dite être une femme trans ou une personne non-binaire. Au CRA du Ménil-Amelot, il y a des femmes et des hommes. Et j'avais été en contact avec une avocate qui m'avait demandé conseil pour le dossier d'un homme trans qu'elle suivait au sein du CRA du Ménil-Amelot, qui avait été placé du coup dans la section femme, alors que c'est un homme. Mais pour le coup, qui était plutôt satisfait de ça, parce qu'il préférait se retrouver dans le CRA femme qu'avec des hommes cis. Mais pour les personnes... gay et bisexuel au CRA de Paris-Vincennes, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a 2 personnes gays pendant mon temps au CRA qui ont ouvertement parlé de leur homosexualité, mais sinon c'est vraiment une information que les personnes veulent cacher. Et ils vont souvent nous demander d'avoir des audiences à huis clos devant le tribunal, parce qu'il faut savoir que pour les audiences au tribunal, toutes les personnes retenues sont... amenés ensemble, donc les personnes du même centre de rétention se trouvent devant le même juge à des audiences et entendent tout ce qui est dit. Et pour une personne atteinte du VIH ou une personne homo et qui n'a pas envie que ça sache, il peut demander un huis clos. Mais j'ai eu le cas plusieurs fois de personnes qui ne voulaient pas demander de huis clos parce qu'ils avaient peur que si ça se savait qu'ils demandaient un huis clos, tout le monde se dise directement bah, « il est homo quoi ». On a eu aussi le cas de personnes qui avaient été mises en chambre d'isolement par les policiers ou qui avaient demandé à être mises en chambre d'isolement parce qu'ils étaient homosexuels et qui se faisaient persécuter par les autres des violences physiques et sexuelles et qui préféraient pour leur sécurité être en chambre d'isolement. Et il y a notamment un monsieur qui avait été libéré par un juge des libertés et de la détention pour ces raisons parce qu'il était... Il était homosexuel et tout le monde l'avait appris au centre de rétention et il s'était vraiment fait agresser physiquement par des personnes retenues et sexuellement. Et il avait demandé à être mis en isolement, mais il était en isolement depuis plusieurs jours. Et une chambre d'isolement, c'est une chambre sans fenêtre. Ça rend fou. Et du coup, qui avait été libérée là-dessus, mais c'est la seule personne qui a été libérée sur ce fondement pendant le temps où j'étais au centre de rétention, pile poil un an.